qu'ils comprennent que l'heure a sonné. Nous avons 18 ans, nous sommes majeurs et vaccinés, nous avons compris qui nous sommes, ce que nous avons et ce que nous pouvons faire. On a décidé de prendre notre destin en main.
On veut que la France quitte de notre pays pour aller dans son pays. Ici, c'est Niger, c'est pas la France.
Nul n'est prophète en son pays, ni dans ses anciennes colonies. La France n'est plus la bienvenue dans une partie de l'Afrique occidentale. Les coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso, au Niger, lui ont signifié qu'elle était désormais indésirable. Signe de son inéluctable déclin, la puissance française a pourtant de beaux restes. Elle fait partie du Club des Cinq, ces pays qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle dispose de l'arme nucléaire, garantie de son indépendance stratégique. D'après l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la France vient de chipper à la Russie la deuxième place au classement des plus gros vendeurs d'armes au monde, grâce notamment au succès de son avion, le Rafale. Elle peut aussi s'appuyer sur le troisième réseau diplomatique mondial et son statut de première destination touristique participe de son soft power. Un tel palmarès est plus qu'honorable, mais est-il représentatif de son influence réelle? La France a connu ces derniers temps quelques déconvenues, en Afrique donc, mais aussi dans le Pacifique, avec l'annulation, on s'en souvient, par l'Australie d'un contrat de livraison de sous-marins au profit du Royaume-Uni et des États-Unis. Alors la France vend des armes, certes, mais ses partenaires européens préfèrent acheter américain. Le monde change, la guerre en Ukraine illustre sa recomposition. Dans ce grand chambardement, la France aimerait sans doute rester elle-même, à savoir une puissance capable de parler à tout le monde et de peser en conséquence, mais elle vivrait désormais au-dessus de ses moyens, dans l'illusion d'un passé révolu. Et après tout, est-ce que c'est si grave? Richard Verly, c'est à justement la place de la France dans le monde que vous vous intéressez, en particulier dans votre livre « Le bal des illusions ». Et je vais vous citer, vous écrivez « Dans ce nouveau désordre mondial, la France peut-elle encore compter sur elle-même sans rien changer dans ses modalités d'action et ses façons de penser ?» Comment est-ce que vous répondez à votre propre question?
Alors si je répondais directement, je dirais non. Il y a des changements qui, à mon avis, à notre avis, quand nous avons mené cette enquête avec François d'Alençon, ça nous est apparu très clair. Il y a des secteurs, des procédés, des manières de faire que la France doit changer pour s'adapter au monde. Mais en disant cela, je ne dis rien de nouveau. Des experts comme Thomas Gomard le diagnostiquent régulièrement, quantité de rapports disent cela.
Et puis ça vaudrait pour la France comme pour tout un tas d'autres pays.
Sûrement. Ce qui est étonnant dans le cas de la France, c'est que on a l'impression quand même que ces rapports, que ces expertises, que ces documents, que ces livres, soit ont été lus et personne n'en a tenu compte, soit n'ont pas été lus. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même une persistance d'un vieux fonctionnement, de vieilles illusions, alors que la moyenne des voisins de la France, je trouve, s'adapte mieux et tient davantage compte des réalités. Donc ça témoigne de deux choses, soit le fait que la France est particulièrement têtue et peut-être a-t-elle raison, à long terme, peut-être que l'évolution du monde lui donnera raison, ou alors qu'il y a des rigidités que l'administration française, les gouvernements successifs ne sont pas capables de surmonter.
Des rigidités qui viennent peut-être de son passé. Il y a un poids historique, évidemment, pour la France, qui a pesé davantage autrefois et duquel ce passé, il est difficile de se détacher, de s'émanciper.
Alors, il est d'autant plus difficile de s'en détacher qu'il est attachant, si je puis dire. Une chose qui est très frappante pour ce livre, donc, avec François, nous avons interviewé à peu près 150 personnalités à travers le monde. Sur ces 150 personnalités, il y en avait que 10 Français, et je cite Thomas, puisqu'il a fait partie de ces 10 personnes à peu près que nous avons rencontrées en France. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a une envie de France. Et c'est ça pour moi le plus frappant. C'est-à-dire que, aussi bien en Inde que même en Afrique, même dans des pays, c'est au Niger, je crois que le reportage à l'instant nous provenait.
Il y avait Niger et Burkina Faso.
Niger et Burkina, il y a une envie de France. Et donc ce passé, ces liens sont très attachants. Et malheureusement, donc, il faut arriver à s'en détacher, ou en tout cas, il faut arriver à répondre à de nouvelles demandes. Donc, ce n'est pas la place de la France qui est en cause, ce n'est pas la présence de la France, c'est plutôt sa manière de s'interroger et de questionner l'actualité, sa manière d'être présente dans le débat mondial.
Magali Lafourcade, est-ce que à la lecture du livre de Richard Verly, vous pourriez répondre à la question suivante? Est-ce que la place qu'occupe la France aujourd'hui dans les institutions, et elle occupe des places assez enviables, hein, dans un certain nombre, j'évoquais le Conseil de sécurité de l'ONU notamment, mais c'est, on va dire, le plus spectaculaire. Est-ce que cette place, elle correspond à l'influence qui est la sienne aujourd'hui dans les affaires du monde?
Alors peut-être pas à son influence actuelle, mais à son influence potentielle, un peu comme quand on parle de la croissance potentielle. Je crois qu'elle a aujourd'hui, pour pouvoir peser vraiment et elle a quand même des atouts considérables, hein, au-delà de cette place qu'elle a un peu héritée de son passé. Elle a aussi des arguments de soft power qui sont extrêmement impressionnants. On peut parler du vecteur linguistique, de la culture, de son réseau diplomatique. Enfin, il y a énormément d'atouts sur lesquels elle fructifie. Mais aujourd'hui, elle souffre d'un énorme problème qui est un problème d'incohérence. Cohérence externe-interne, on en parle régulièrement dans cette émission, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'elle se redresse et qu'elle soit fidèle aussi à ce qu'elle prône à l'extérieur pour pouvoir avoir une voix qui est entendue, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'il y ait une vraie sincérité dans le message. Et puis, il y a un problème aussi de cohérence externe-externe, c'est-à-dire qu'elle a, il y a un peu une idée du coup d'éclat, d'une volonté d'être disruptif, de faire du en même temps, qui brouille un peu la ligne. D'ailleurs, dans le livre, vous parlez de arrogance et brouillard, ces deux termes qu'on retrouve quand on parle avec des diplomates étrangers, qui est assez net. Et moi, je crois que le sursaut est possible, surtout si elle définit un cap qui est cohérent avec son histoire. Je crois qu'il ne faut pas tourner le dos au passé, au contraire, c'est une arme très positive, le passé. Le cap, c'est l'influence par le droit. La France a été, enfin, bon, après, c'est aussi mon angle de droit de l'homiste invétéré, mais la France a porté une voix très forte, avec des juristes comme René Cassin, comme Léon Bourgeois, qui ont façonné l'OIT, la Déclaration des droits de l'homme.
L'OIT, Organisation internationale du travail.
Donc, on était sur un ordre mondial fondé sur la règle du droit international. Et cet ordre mondial, aujourd'hui, il va mal. On est à le retour d'une violence, d'une brutalité inouïe. Et la France mériterait de porter cette influence par le droit. D'ailleurs, elle a une stratégie d'influence par le droit. Et ça, ce serait intéressant et qu'elle fasse une analyse de ses forces et de ses faiblesses, de ses leviers d'action. Et puis surtout, de voir qu'on est face à une crise qui arrive, qui est la crise de la triple crise planétaire, et comment ces leviers sont pertinents par rapport au message qu'il faut porter.
Alors je vais aller très vite vers Thomas Gomard et vers Catherine Tricot, mais une petite réaction, Richard Verly, par rapport à ce que vient de dire Magali Lafourcade, et notamment sur les incohérences entre ce qui se fait à l'intérieur et ce qui se fait à l'extérieur. Est-ce que ça, c'est aussi perçu par les pays à l'extérieur de la France comme un des signes de sa faiblesse, c'est-à-dire elle ne fait pas à l'intérieur ce qu'elle prône à l'extérieur?
Si je devais hiérarchiser, ce n'est pas ça que je mettrais en tête. Ce que je mettrais en tête, c'est malheureusement l'incapacité à assurer les promesses et le suivi des promesses que fait la France. Pour moi, c'est ça le plus fort. Quand vous êtes à l'étranger, les paroles, notamment les paroles du président de la République, puisque le système français fait qu'au sommet, il y a le président de la République qui, en plus, Emmanuel Macron est particulièrement loquace et parle souvent et fort. Eh bien, l'incapacité de la France à assurer ses promesses et à mettre en œuvre, je dirais, un degré suffisant de ses promesses. Ça, c'est l'élément principal. Pour réagir à ce que vous disiez, deux choses. Tourner le dos à son passé, non seulement c'est pas souhaitable, mais en plus c'est impossible, puisque le passé, il est là, et c'est vrai de tous les pays et de toutes les puissances qui ont été notamment coloniales. Vecteur linguistique, je réagis sur ce point particulier. Là, dans le livre, vous le savez, on est très sévère. Moi, je pense que la francophonie institutionnelle est morte, et qu'elle ne sert plus à rien. Que la francophonie soit un vecteur d'influence en tant que partage de la langue, partage d'une culture, ça incontestablement, mais la francophonie institutionnelle représentée notamment par l'Organisation internationale de la francophonie basée à Paris, je suis désolé, mais je n'ai entendu personne en parler de manière positive, à part ceux qui y travaillent.
Thomas Gomard, vous qui avez donc été un des inspirateurs de ce livre, en tout cas un des 10 experts français à avoir été consulté par Richard Verly pour son livre Le bal des illusions, est-ce que vous trouvez que le constat de ce livre est quoi, trop indulgent, trop sévère, ou bien c'est le bon constat? Vous pouvez le critiquer, évidemment. Hein.
Merci de m'en donner la possibilité. Non, j'ai beaucoup aimé le livre de Richard Verly et François d'Alençon dans son écriture, qui multiplie les références dans tous les domaines. Donc c'est très agréable à suivre. C'est un livre, je dirais, qui est assez classique en réalité dans le thème qu'il aborde. C'est-à-dire que c'est un thème qui revient très fréquemment en librairie. Et pour répondre à Richard Verly, je pense que je souhaite évidemment que son livre soit lu par le plus grand nombre. Mais je serais assez d'accord avec lui pour dire que bon nombre de rapports ou de livres sur le même sujet n'ont pas été lus, parce qu'il n'y a pas d'adaptation correspondant au fond au constat qui est fait par de multiples sources. Je pense qu'en fait on oscille en France toujours entre le déni et le dénigrement. Le déni, c'est tout simplement de constater que la France est 1% de la population mondiale, un peu moins de 2% de la richesse mondiale. C'est de mémoire à peu près 13% des mouvements, des transferts sociaux mondiaux. Donc il y a quand même un problème de modèle assez fondamental pour arriver à le maintenir. Ensuite, je pense, et c'est un point qui est, à mon avis, très bien abordé dans le livre de Richard Verly et François d'Alençon, moi j'explique ces très grandes difficultés tout simplement par l'état de l'appareil productif français. C'est-à-dire qu'en fait, on a une diplomatie, un rayonnement qui reste très tributaire de l'appareil productif français, lequel est dans une situation extrêmement difficile. Niveau de dette publique élevé comme jamais, déficit commercial élevé comme jamais. Et donc, d'une certaine manière, quand vous soulevez le capot, on se rend compte que là où on pense avoir une belle berline, il y a un moteur qui est sous-dimensionné par rapport à la berline. Et je pense que c'est le problème principal. Je rappellerai
ça veut dire qu'on ne peut pas peser politiquement si on ne pèse pas économiquement.
Absolument. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir. Il y a un moment où le décalage entre les mots et les choses renvoie au décalage entre les ambitions et les moyens. Quand vos moyens sont limités, ça a tendance à, je dirais, accentuer un travers très français qui est de croire qu'on change le monde par des discours. Alors évidemment, les discours sont importants, mais ne suffisent pas. Et ça me permet aussi de répondre à la remarque de Magali que je partage entièrement sur l'importance du droit comme manière d'influence, mais c'est un peu la même remarque, c'est-à-dire que le droit sans la force n'est rien, et que la force sans le droit est arbitraire, hein, pour reprendre Pascal. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on a eu cette influence grâce au droit, parce qu'on était dans un système de sécurité qui nous était bénéfique, celui au fond construit par les États-Unis principalement après 45. Et c'est ça qui est en train de changer, c'est-à-dire que on va se retrouver dans une situation où si on veut continuer à promouvoir le droit, mais avec un système de force qui va nous devenir défavorable, et c'est la tendance qu'on observe, ça sera évidemment beaucoup plus difficile.
Sur la question, sur la scène diplomatique, Catherine Tricot, est-ce qu'on pourrait dire donc que la France vit au-dessus de ses moyens ?
Je ne sais pas si aujourd'hui elle vit au-dessus de ses moyens. Ce que je pense, c'est qu'elle a les atouts qu'elle peut mobiliser pour répondre à ses ambitions. Mais je pense qu'il y a un problème vraiment, comme vous l'avez dit Magali tout à l'heure, il y a un problème de cohérence entre les objectifs que l'on s'assigne, et je voudrais insister sur le « on s'assigne » et la réalisation. Et le « on », pour moi, il y a un gros problème, c'est que ce « on » n'est pas partagé. C'est-à-dire que ça reste un débat qui est très peu public, très peu politique. On dit que c'est le domaine réservé du président, donc on n'en discute pas. C'est très rarement mis en discussion à l'Assemblée nationale.
Peut-être que si on n'en discute pas, c'est parce qu'il y a une forme de consensus autour de ce qu'on doit faire la France.
Je pense que on voit bien que d'abord il se fissure un petit peu actuellement. Je crois qu'il est très en danger, et qu'il est en danger aussi parce qu'en fait il doit être reformulé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Richard Verly. C'est-à-dire que le problème, c'est que le monde est en train de changer, et que donc je ne dis pas que les grands items doivent changer, mais en tout cas leur traduction, leur hiérarchie, non seulement leur traduction, mais leur hiérarchisation elle-même doit être réévaluée. Et on sait très bien que les élections présidentielles, par exemple, l'international ne fait pas partie du sujet. On considère que les électeurs ne votent pas en se définissant là-dessus.
Ça, c'est un peu le cas dans tout un tas de pays.
C'est tout à fait possible, mais ce que je crois, c'est que la force de la France, si je le dis comme je pense la France, comme je me la représente, la force de la France, c'est d'être une nation politique. C'est-à-dire que si il n'y a pas de consensus de la population autour des grands objectifs politiques de sa présence diplomatique notamment, et même de son engagement militaire, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça repose, à mon avis, ça ne repose pas sur notre puissance économique, vous venez de le rappeler à l'instant, Thomas. Ça ne repose pas évidemment sur notre démographie, ça repose sur notre histoire et sur nos valeurs. Et donc, pour moi, c'est ce socle-là qui doit être refondé, reconstitué, et donc arbitré politiquement, donc soumis à la discussion publique. Et après, ça nous amènerait sur un deuxième terrain qui est celui que vous avez évoqué, Magali, c'est-à-dire celui de la cohérence, du coup, entre les objectifs que l'on s'assigne sur le plan international et les politiques au jour le jour que l'on fait à l'intérieur, qu'on fait la politique vis-à-vis des étudiants étrangers, vis-à-vis des migrants, vis-à-vis des politiques des visas, etc., etc., qui sont totalement délétères, à mon avis, pour nos relations avec le reste du monde.
Richard Verlier, si les moyens assignés à cette politique de puissance et d'influence à travers le monde ne correspondent pas aux ambitions, est-ce que ça ne veut pas dire d'abord qu'il faudrait peut-être réduire les ambitions, vouloir moins peser un peu partout et se concentrer peut-être sur, par exemple, je ne sais pas, sur l'Europe plutôt que de vouloir aussi avoir une politique dans le Pacifique, avoir une politique transatlantique, une politique en Afrique, enfin une politique un petit peu partout.
Alors Emmanuel Macron a essayé de résoudre ce dilemme avec son concept de puissance partenariale. Autrement dit, la France peut continuer à intervenir partout, intervenir politiquement, avoir de l'influence, à condition d'avoir des partenaires. Et c'est avec ces partenaires, selon les zones géographiques, que la France peut continuer d'intervenir. Sauf que c'est quand même un concept très théorique. Parce que d'abord, vous n'êtes pas sûr de trouver les bons partenaires dans toutes les zones géographiques. Ensuite, trouver des partenaires, ça demande énormément d'énergie. Parce que les partenaires, ils n'arrivent pas comme ça, ils ne sont pas séduits par la dame France et ne tombent pas dans ses bras spontanément. Donc moi, je crois qu'il y a d'abord un problème de mots, puissance partenariale. Personnellement, je trouve que c'est quand même très vague et je n'ai trouvé personne, nous n'avons trouvé personne à l'étranger pour nous définir ça de manière précise. Alors, est-ce qu'il faudrait que la France réduise ses ambitions? Moi, je vais dire sans doute, sans doute. Sans doute, mais à condition de clarifier les choses. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de domaines, de dossiers sur lesquels la France ne peut plus agir seule. Ça, j'ai l'impression que tout le monde l'a compris, y compris en haut lieu.
Lesquels? En quelques mots.
Par exemple, il est évident que sur le dossier du climat, pour prendre celui-ci, la France ne peut pas agir seule. Mais aucun pays au monde, quasiment, ne peut agir seul.
Parce que les accords de Paris, comme leur nom l'indique, ont été passés en France, la COP21.
Tout à fait. Donc là, c'était quand même un peu de la... La diplomatie française était à l'œuvre, mais le lieu Paris était un peu de la diplomatie hôtelière. Il se trouve que ça s'est passé à Paris, mais je ne sais pas si le choix de Paris avait été fait parce qu'on estimait que la diplomatie française serait la seule capable d'accoucher d'un compromis. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Alors, il y a la question du climat, il y a la question des migrations, par exemple, sujet sur lequel la France ne peut évidemment pas agir seule. Mais ça, je crois que tout le monde l'a compris, y compris le président de la République. Ce qui, par contre, perdure, c'est, au fond, l'incapacité à travailler en équipe, pas seulement avec les fameux partenaires, mais aussi au sein de l'administration française. Nous, on a été frappés de voir un certain nombre de partenaires de la France, j'entends de personnalités ou d'institutions qui travaillent avec la France, qui vous disent, entre quatre délégations françaises qu'on a reçues ces six derniers mois, elles nous ont dit des choses différentes et elles nous ont proclamé des objectifs différents. Donc j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à mettre, je ne sais pas s'il faut appeler ça l'État, l'administration, la diplomatie, en tout cas la machine France à l'œuvre pour travailler dans un même sens au service des mêmes objectifs.
Vous la ressentez, ou cette difficulté, Thomas Gomard, vous qui dirigez un think tank influent, l'Institut français des relations internationales?
Je ressens l'envie de France, en fait, assez fortement. C'est-à-dire qu'on est dans le circuit dans lequel j'évolue, qui est un circuit à la fois très coopératif et très compétitif, hein, d'élaboration d'idées ou de concepts. Il y a souvent une attente d'un point de vue français. Ça, c'est tout à fait juste.
Mais une attente de qui, c'est-à-dire de...
Mais faire attention, parce qu'en fait, on est très vite instrumentalisé. C'est-à-dire qu'on est un peu les Français de service qui disent les choses désagréables, très bien, le français a parlé. En fait, on n'en tient pas compte. Et c'est un peu ce qu'on observe en termes diplomatiques. C'est-à-dire qu'on est très content de prendre des positions à l'oral. Par exemple, le dernier grand succès de la diplomatie française qu'on rappelle à l'envi, c'est l'opposition de 2003 à l'intervention anglo-américaine en Irak, avec à l'époque Berlin et Moscou. Bon, très bien, c'est une sorte de coup d'éclat qui ne change absolument rien au cours des choses, en fait. Et c'est assez caractéristique de l'aspect de certains aspects de la diplomatie française. Donc je sens l'envie au sens il y a une sorte de méthode française qui est appréciée. Je pense qu'il faut pas la surjouer. Nous dans notre métier on apprend beaucoup à écouter les autres et on passe beaucoup de temps justement à s'entendre dire aussi dans l'univers qui est le mien. En fait, qu'est-ce que fait la France par exemple comme membre permanent du Conseil de sécurité? Ça par exemple mes collègues indiens désormais nous apostrophent sur ce thème-là, ce qui montre bien effectivement qu'il y a un changement de perception qui est extrêmement fort et des revendications de leur côté de plus en plus prononcées.
Mais quand ils nous apostrophent, c'est au sens qu'est-ce que fait la France ? Elle ne fait rien.
De votre légitimité actuelle, qui est probablement exagérée par rapport à votre poids réel, votre poids économique et votre poids stratégique. Bon, alors en même temps, on explique que le système de post-45, il est le fruit de toute une évolution, etc. Donc, ce que je pense important pour répondre à votre question, oui, en revanche, ce qu'on observe, c'est une certaine confusion aujourd'hui sur les objectifs. Effectivement, un système ultra-présidentiel, avec une parole présidentielle presque oraculaire, en quelque sorte, qu'on essaie d'expliquer. C'est-à-dire qu'on est très souvent interrogé à l'étranger pour essayer de faire comprendre ce que le président a pu dire. Ça, c'est plus prononcé sous Emmanuel Macron que jadis, mais ça révèle aussi, à mon sens, cette attente que je mentionnais.
Catherine Tricot.
Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de donner plus de cohérence et presque, je dirais, de moyens. Donc, quand je vous entends à l'action diplomatique, c'est-à-dire que là, en ce moment, on est en train de beaucoup discuter de donner plus de consistance à l'action militaire. C'est-à-dire qu'on voit qu'on va attribuer, on vient de voter une loi de programmation militaire qui augmente de 40 ou 50% par rapport à la précédente. Vous le rappelez dans votre livre, qui est le précédent qui n'ont jamais été réalisé. Mmh. Mais enfin, ceci étant, on voit quand même un effort substantiel et je crois que on aurait besoin en ce moment de faire cet effort, alors pas simplement en termes de moyens, en termes de diplomates et de présence avec les ambassades, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, mais de moyens intellectuels et de cohérence. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ça que je ressens, c'est que les objectifs ne sont pas clairs, on ne sait pas sur quoi, et je pense qu'on ne peut pas tout courir en même temps. C'est-à-dire que l'enjeu, ce n'est pas tellement le problème de la dispersion géographique. Pour moi, ce que je ressens, c'est que on n'identifie pas les endroits où la France peut apporter quelque chose d'utile au monde. Et peut-être que il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-uns. On parlait tout à l'heure, avant que l'émission commence, le poids de la France sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas significatif. Par contre, le fait que la France en fasse une vraie politique qui la porte, je pense que ça peut véritablement redonner du sens à notre action internationale.
La France, elle fait partie d'un système d'alliances, à commencer par l'Union européenne. Est-ce qu'un des problèmes de la diplomatie française, Magali Lafourcade, ça n'est pas aussi que la France considère qu'elle doit assumer une forme de leadership européen au détriment peut-être d'un partenariat un peu plus poussé avec ses voisins européens?
Alors là, on a vu ces derniers temps qu'elle se voit comme une puissance de leadership, mais elle est en train d'exploser son partenariat avec l'Allemagne. Les derniers temps, c'est devenu quand même très très difficile de travailler ensemble. Donc là, la logique partenariale, elle n'est pas très évidente. Et je crois, pour rebondir sur ce qu'a dit Catherine Tricot, qu'il est très important d'avoir un cap clair. Donc pour moi, c'est garder un ordre mondial qui s'appuie sur le droit international, le respect des frontières, etc. Et d'identifier ses valeurs ajoutées. Dans son histoire, elle a porté un discours très original de non-alignement. Elle peut continuer à le porter.
Elle peut vraiment aujourd'hui.
Oui, elle peut avoir une voix singulière, je le pense.
Parce que
vraiment,
par exemple, sur la question de l'Ukraine, c'est compliqué d'être non aligné.
Alors,
or, c'est quand même le conflit majeur du moment.
Alors là aussi, elle a surpris, pour répondre à votre question, elle a surpris énormément les partenaires, puisque pendant longtemps, elle disait qu'il fallait absolument dialoguer avec Vladimir Poutine. On a vu Brégançon, on a vu les images avec la table immense et avec le président de la République en face de Vladimir Poutine. Et puis après, elle a pris tout le monde de court en changeant complètement. Et le temps que les diplomaties, les chancelleries étrangères s'adaptent au discours d'Emmanuel Macron, il y avait encore une idée de nouvelle. Donc, il y a un éparpillement. Il y a un manque de clarification de la ligne. Et surtout, je crois qu'il est important d'identifier là où elle a de la valeur ajoutée et là où la crise arrive. On sait où elle arrive, la crise. C'est la crise climatique, environnementale et de la biodiversité. Et face à ça, il y a une vraie pertinence de ces aspects de moyens, le soft power, son rayonnement diplomatique qui est important. Et donc, même si elle n'est pas une grande puissance militaire, on a aussi vu qu'il y a eu des catastrophes de grandes puissances militaires où les guerres n'ont pas porté le fruit escompté. Je pense à la Libye, je pense aussi à toutes les guerres préventives qu'on a eues ces dernières années où ça a induit que du chaos. Et finalement, l'important, même si bien sûr l'argument de la puissance c'est la dissuasion, c'est donc d'avoir aussi une force militaire, l'argument aujourd'hui sur lequel elle doit s'appuyer, c'est quels sont mes axes stratégiques de valeur ajoutée et en quoi c'est pertinent par rapport à la crise qui arrive.
Cette idée d'un non-alignement de la France, Richard Verly, ça participe de ce bal des illusions, pour reprendre le titre de votre livre.
Alors, ce n'est pas une illusion parce qu'il fait partie du passé attachant dont on parlait. Mmh. Et notamment, lorsque plus vous éloignez de l'Europe, plus, bien évidemment, ça se résume en gros à un nom, c'est le général de Gaulle, pour dire les choses. Bref. C'est-à-dire que cette idée que la France était une puissance différente, ça participe de ce passé sur lequel on pourrait s'appuyer. C'est un vrai capital, notamment de capital de sympathie. La difficulté, il y en a deux majeures, c'est que le monde de Gaulle n'existe plus. C'est quand même une difficulté majeure. Et la deuxième chose, c'est que les présidents français successifs ont été parfois un peu contradictoires dans leurs options. Donc ce non-alignement, entre guillemets, à la de Gaulle, je pense notamment à la présidence Sarkozy. Lorsque Sarkozy fait le choix de rejoindre le commandement intégré de l'OTAN, je me prononce pas sur le fond, je dis, c'est pris par beaucoup de pays comme oh bah, la France devient une puissance européenne comme les autres, puisqu'elle rejoint l'OTAN par appui américain. Sauf que la France, bien qu'ayant fait ça, continue de revendiquer ce non-alignement. Donc là, il y a une contradiction et on comprend plus. Et effectivement, le mot a été prononcé tout à l'heure, confusion. Je rejoins absolument cette confusion, évidemment, comme dans tous les domaines, la confusion nuit à la compréhension et nuit à l'envie de travailler avec quand vous avez un interlocuteur qui est confus. Sur l'Union européenne, là, dans le livre, on a tout un chapitre consacré à l'Union européenne. Il y a quand même, à mon avis, un problème. Et c'est difficile à dire, bien évidemment, parce que ça donne tout de suite prime aux souverainistes et aux nationaux populistes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne telle qu'elle est un facteur décupleur de puissance pour la France ? C'était quand même ça l'idée de départ. La France toute seule peut de moins en moins. L'Union européenne va lui permettre de, au fond, de se maintenir en première division ou en super division mondiale. Est-ce que c'est encore vrai ? Est-ce qu'aujourd'hui la France bénéficie encore en termes de puissance, en termes d'influence de l'Europe, ou est-ce qu'au contraire, je pose la question, elle doit consacrer tellement d'énergie à raccrocher les wagons derrière elle en Europe que c'est autant d'énergie qu'elle ne peut pas utiliser ailleurs. Je dis que le débat devrait peut-être, à mon avis, être davantage posé.
Thomas Gomard et ensuite Catherine Tricot.
Moi, je voudrais formuler les choses un peu différemment et ça apparaît d'ailleurs dans le livre. C'est-à-dire que le sujet, c'est quand même l'articulation entre une diplomatie et un outil militaire en fonction de la lecture que l'on a du contexte historique dans lequel on est. Pour le dire autrement, je pense qu'on sort d'années entre guillemets bénies, d'années où notre sécurité nous semblait garantie et acquise. Bon. Pourquoi je commence par ça, c'est que on est probablement entré dans une autre phase où effectivement il y a la crise climatique, mais il y a un retour de la conflictualité de manière tout à fait inattendue en Europe et qui nous place, à mon sens, pour les années qui viennent, dans une position de plus en plus défensive. Et ça change, à mon sens, beaucoup des paramètres qui étaient ceux dans lesquels on a pensé notre politique étrangère. Au fond, de manière diplomatique, en fait, on va probablement être obligé de penser notre politique étrangère de plus en plus en termes de sécurité. Alors je rejoindrai volontiers Catherine Tricot sur la nécessité d'allouer davantage de moyens à la diplomatie. Et effectivement, quand on regarde en termes budgétaires, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a vu ses crédits érodés de manière très très spectaculaire au cours des 30 dernières années. Il y a un effort là qui a été annoncé, mais tout de suite corrigé par la correction budgétaire récente. Et puis il y a l'effort en termes militaires qui, à titre personnel, me semble indispensable. Pourquoi ? Parce que les Européens, en réalité, et les Français les premiers, ont désarmé depuis le début des 70 et se retrouve aujourd'hui dans une situation sur le plan international, encore une fois, à mon avis très délicate, et on le voit bien avec l'Ukraine d'ailleurs, où on a des questions assez fondamentales sur la capacité à soutenir l'Ukraine dans son effort de légitime défense contre l'agression russe. Donc ça, je pense qu'il faut, à mon avis, ne pas mettre en tension l'effort produit pour la défense militaire par rapport à l'effort produit pour l'aspect diplomatique. Je pense que c'est très lié. Et donc, dernier point, en réalité, la référence constante, presque obsédante à De Gaulle, ça je rejoins, évidemment, le livre est très bien construit là-dessus, et à mon avis, c'est une référence embarrassante, parce qu'en réalité, on ne retient de De Gaulle que l'aspect, on a l'impression que De Gaulle était tiers-mondiste, en fait, aujourd'hui. Bon, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que De Gaulle a valorisé les alliances de manière extrêmement forte pendant toutes les crises aiguës, que ce soit Berlin, Cuba, et je pense qu'on a en fait une lecture, vous le dites dans le livre, partiel et partial du gaullisme.
On parle beaucoup d'ambiguïté stratégique aujourd'hui, et au fond, il y a une ambiguïté gaulliste.
Absolument.
Catherine Tricot, juste un dernier mot sur ce que disait Richard Verly, sur la façon dont l'Union européenne soit dilue, soit multiplie la puissance de la France.
Juste un tout petit mot pour dire que j'étais d'accord avec ce que vous venez de dire, Thomas, sur la question. Il n'y a pas question d'opposer la question militaire et la question diplomatique, et je pense que l'une et l'autre souffrent en fait de la même chose, c'est-à-dire de la confusion. On ne sait pas très bien quels sont les objectifs que l'on assigne même à nos armées. C'est-à-dire que cet appel au débat politique sur les orientations diplomatiques, je pense que devrait également avoir lieu. Voilà, ça c'est le premier point. Et la deuxième point, c'est que la question de l'Europe, moi je pense que la France a été actrice dans l'élargissement, mais elle n'a pas été actrice dans la consolidation politique de l'Europe. On se pose actuellement la question d'encore un nouvel élargissement avec l'Ukraine. Je ne sais pas si tous ces élargissements successifs sont tout à fait compatibles avec le fait d'avoir une Europe qui poursuit des objectifs politiques, diplomatiques communs.